Vous écoutez Radio Kapi, il est 19h au village Whisky dans le Grand Katanga. Une heure de moins à Tembo, au Grand Bandundu. Le journal.
Radio Kapi.
Forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais. Les travaux ont démarré aujourd'hui à Lubumbashi. Il s'agit ici de passer en revue tout ce qui divise les fils et filles du Grand Katanga et aboutir à la réconciliation effective, explique l'initiateur de ces assises. Le 17 mai aujourd'hui, c'est la journée nationale de la révolution et des FARDC. Occasion pour le parti RCDKML d'appeler les autorités du pays à mettre à profit cette journée afin de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des militaires pour l'efficacité de l'armée congolaise. Vous entendrez à ce sujet le secrétaire général de ce parti. Le 17 mai aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de l'hypertension artérielle, journée décrétée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Objectif, donner l'information sur la prévention, la détection et le traitement. Pour en parler, nous recevons le docteur Ananias Duamungu de l'hôpital Île Africa de Goma. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Haut-Katanga. Début ce mardi à Lubumbashi du Forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, initiateur de cette rencontre, a posé les jalons pour qu'à l'issue de ce forum, la réconciliation soit effective parmi les fils et filles de l'espace Grand Katanga, témoin de l'événement Jean Gandou Kabongo.
D'entrée des jeux, l'archevêque métropolitain a demandé aux participants de se surpasser malgré tout ce qu'ils ont à se reprocher les uns des autres. Monseigneur Félix Mouteba a tenu à rappeler que ce forum n'a pas de visée politique. Il est un cadre de réflexion des fils et filles du Grand Katanga qui doivent passer en revue tout ce qui les divise et crée des frustrations au point de freiner le développement de cet espace qui regorge de beaucoup de minéraux mais dont les populations croupissent dans la misère. Il a demandé aux uns et aux autres de se regarder en face, de se parler, de discuter en vue de se pardonner pour une réconciliation sincère. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Vincent de Paul Lunda Bululu a aussi appelé l'assistance à privilégier la concorde pour le développement du Grand Katanga. Notons que pour cette journée inaugurale, on a noté la présence de plusieurs personnalités, dont les proches de Joseph Kabila, à l'instar de Jeannette Kabila, Francine Muyumba, Mova Sakani, Séraphin Gouège, Moïse Katumbi et ses proches sont aussi présents. Il y a également quelques membres du gouvernement et des notabilités de toutes les provinces issues de l'ancien Katanga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Processus de Nairobi. Après le premier round des consultations directes entre le groupe de travail de la présidence de la République et les représentants des groupes armés des provinces de l'Est de la RDC, le processus de paix de Nairobi est entré ce mardi dans sa deuxième phase avec l'implication de la communauté internationale. Réunis au quartier général de la MONUSCO lundi à Kinshasa, les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ceux des pays ayant statut d'observateur au processus de Nairobi, ainsi que les représentants de l'Union européenne ont été suffisamment éclairés sur l'avancement de ce processus à travers un briefing fait par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Tshibangu, et l'ambassadeur du Kenya en RDC, d'autres détails avec Fulbert Balolagué.
Ouvrant la séance, le mandataire spécial Serge Tshibangu a rappelé aux représentants de la communauté internationale les objectifs et attentes fixées par le chef de l'État Félix Tshisekedi et les étapes déjà franchies dans ce processus de paix. Après les conclaves du 8 et 21 avril 2022 et la tenue du premier round de consultation avec les groupes armés, ce processus est désormais irréversible, a dit le professeur Serge Tshibangu. De son côté, l'ambassadeur du Kenya en RDC a résumé l'implication de son pays en tant que facilitateur à faire aboutir ce processus qui cadre avec la charte de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le président Uhuru Kenyatta, rappelle-t-on, a été chargé par les conclaves pour piloter le volet politique des résolutions du 21 avril dernier. Après des échanges, les diplomates ont publiquement clamé leur appui multiforme à ce processus, indique une dépêche de la présidence. À la suite du président Tshisekedi, le représentant de l'UE, Jean-Marc Châtaignier, pense qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FARDC. Présent depuis le deuxième conclave de Nairobi en tant qu'observateur, les USA et la France ont réaffirmé leur engagement d'accompagner ces processus. A noter que l'équipe de la présidence dirigée par le professeur Serge Tshibangu est attendue dans les prochaines heures à l'intérieur du pays.
Pendant ce temps, en Ituri, 5 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues. Bilan provisoire d'une attaque la nuit de lundi à ce mardi dans la localité Tiz, territoire de Djougou. Attaque perpétrée par le groupe d'autodéfense Zaïre. Selon des sources coutumières, ces hommes armés ont incendié plusieurs maisons d'habitation avec comme conséquence des nombreux habitants ont fui se retrouvant sans abri. L'armée rassure, les FARDC sont déjà déployés pour récupérer les otages et sécuriser la région. Martial Kizabiamungu nous raconte.
Un groupe de dizaines d'hommes armés à provenance de Mazé dans le territoire du Djougou s'est introduit lundi vers 19h dans la localité 13 proche du centre de Souli au groupe Magokpa en secteur de Djati. Certains habitants qui étaient encore au marché nocturne dans cette entité ont été surpris par des tirs nourris de ces hommes armés. Des sources coutumières rapportent que 5 personnes parmi les civils ont été atteintes par balles et sont mortes sur place. Ces malfrats ont pris en otage plusieurs personnes et incendié une dizaine de avant de se retirer, ajoutent les mêmes sources. De nombreux habitants qui avaient fui cette attaque et d'autres dont les habitations ont été incendiées sont sans abri et passent la nuit à la belle étoile. Ce mardi matin, certains commencent à regagner les milliers à cause de la présence de FARDC. Les porte-parole de l'armée à Ituri rassurent que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les personnes enlevées et sécuriser la population. Par ailleurs, ils lancent un appel aux jeunes membres de ces groupes d'autodéfense à adhérer au processus de paix. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le 17 mai aujourd'hui, c'est la journée internationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le secrétaire général du parti politique RCD-KML appelle les autorités du pays à mettre à profit cette journée en vue de réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie des militaires pour l'efficacité des forces armées de la RDC. Le député Kiro Tsongo Grégoire affirme qu'il faut également rendre hommage aux militaires engagés au front depuis plusieurs années pour restaurer la paix dans l'Est du pays. Le député Kiro Tsongo explique au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Cette journée consacrée au FARDC est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les militaires qui se battent avec beaucoup de courage et d'abnégation dans des conditions particulièrement difficiles jusqu'au sacrifice suprême pour essayer de restaurer la paix à l'est de la République, notamment dans la région de Beni où ils mènent des opérations contre les ZDF depuis près de 10 ans, cela souvent sans moyens conséquents. Ainsi, la commémoration de cette date devrait être l'occasion pour les dirigeants du pays de réfléchir sur comment améliorer les conditions sociales et professionnelles des militaires et comment rendre les FARDC plus efficaces en faisant une réforme profonde de l'armée et en mettant fin au détournement des moyens déjà limités qui sont mis à la disposition des militaires.
Par ailleurs, conspirateurs et fossoyeurs, Tupo Akombozi, entendez, peuple seul libérateur, mémoire, c'est le titre d'une nouvelle publication de 362 pages qui vient de paraître sous la plume de Mzé Ismaël Richard Tutuemoto, ancien compagnon de la révolution du feu président Laurent Désiré Kabila. Cet ouvrage a été porté sur les fonts baptismaux hier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Dans ce livre, l'auteur partage certains souvenirs des maquis et immortalise les héros nationaux, notamment Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Il parle également du révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara, tout en invitant les jeunes à suivre l'exemple de ces héros qui ont lutté pour le bien-être social de la population. Mzé Ismaël Richard Tutuemoto est au micro de Jean-Marc Matouaki Mofelele.
J'ai pris cette décision de vous offrir cet ouvrage pour dire que Laurent Désiré Kabila n'est pas mort, Patrice Emery Lumumba n'est pas mort, tous nos deux héros sont encore vivants parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour le peuple congolais. Che Guevara, c'est un internationaliste. Il voulait mourir, regarde, il est allé libérer Cuba avec Fidel Castro. Il est venu ici chez nous pour lutter. Il est allé en Angola, en Algérie. Et il est allé mourir en Bolivie. Ça dit tout pour Che Guevara. Quelqu'un qui était là pour le bien du peuple et du monde et tout entier. Ce que j'ai écrit là, c'est comme un acteur et un témoin vraiment vivant, vraiment qui était actif. Bien sûr, il y a beaucoup de mes compagnons qu'on a travaillé ensemble et qui sont morts. Vous voyez que vous direz dans les livres là, qui ont contribué avec moi. D'autres sont encore en vie. On ne peut pas toujours mourir avec tous ces secrets et tout ce qu'on connaît. Il faut laisser à la génération future que vous êtes, qui sache qu'est-ce que c'est le Congo et quels sont certains secrets cachés qu'on ne voulait pas vous les dire. C'est un livre pédagogique, historique pour tous les peuples congolais, toutes tendances confondues.
Santé. Le taux de malnutrition sévère chez les enfants s'aggrave dans le monde à la suite de l'envolée des prix alimentaires, avertit le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dans un nouveau rapport publié ce mardi 17 mai à New York, au siège de cette agence de l'ONU. Et la RDC, dont 70% d'enfants malnutris aigus n'ont pas eu accès au traitement en 2021, n'est pas épargnée. D'autres détails de ce rapport avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le rapport de l'UNICEF s'intitule SOS Enfants. Il parle d'une explosion catastrophique des taux de malnutrition sévère chez les enfants dans le monde. Situation que l'agence attribue à la guerre en Ukraine et aux coupes budgétaires engendrées par le Covid-19. Le coût des aliments thérapeutiques vitaux pour les enfants souffrant de malnutrition devrait enregistrer jusqu'à 16% d'augmentation, signale ce rapport qui met l'accent sur les malnutritions sévères dont souffrent nombre d'enfants dans plusieurs pays du monde. Concernant la République démocratique du Congo, l'UNICEF signale que le phénomène demeure tout aussi préoccupant depuis les dernières décennies et le rapport place la RDC parmi les 10 pays qui représentent 60% de la charge mondiale de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans. En 2022, précise SOS Enfants, on estime à 2,8 millions le nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë globale au Congo démocratique, dont 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans.
Province du Maniema, pendant ce temps, la campagne de consultation spécialisée gratuite des femmes souffrant des problèmes d'infertilité primaire et secondaire se poursuit normalement. Cette campagne organisée par le centre hospitalier Lumbulumbu vise également les femmes ayant d'autres pathologies gynécologiques. Au 14e jour de cette activité hier, une centaine de personnes ont déjà été consultées, nous dit Florence Kizalunga.
Lancée depuis le 2 mai, à ce jour, plus de 100 personnes ont bénéficié de ces consultations et disent être satisfaites de connaître leur état de santé.
Je souffrais tellement sans connaître la cause. Aujourd'hui, je suis consultée. Je suis fière de connaître mon état.
Ma chère, mon épouse souffrait beaucoup plus. Elle se sentait très mal au niveau des seins. Nous venons d'être consultés. Le médecin nous a clarifié et nous a donné une ordonnance médicale. Maintenant, nous sommes fiers d'être éclairés par le médecin là.
Le médecin gynécologue obstétricien confirme la souffrance de ces personnes qui méritent une prise en charge médicale adéquate. Docteur Mbungu Mulaila.
C'est vrai qu'elles viennent et nous nous rendons compte qu'il y a vraiment des problèmes dans la communauté parce que nous n'avons pas encore fini l'échéance donnée. Nous n'avons pas encore dire si elles seront nombreuses par rapport à l'attendu ou pas. Elles ont sérieusement des problèmes parce que nous diagnostiquons différentes pathologies depuis que nous avons commencé, celles qui nécessitent un traitement médical et les autres qui nécessitent même des traitements chirurgicaux.
Signalons que les examens des laboratoires et les médicaments sont à la charge des malades, mais à des prix promotionnels. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Santé toujours, lancement officiel lundi à Kenge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la province du Kwango. C'est le gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit qui a donné le go de cette campagne en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la province, des cadres du système de santé et de certains partenaires, notamment l'UNICEF. À l'occasion, le docteur Léon Makambu, médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV, sensibilise la population à se faire vacciner dans le but de se protéger contre cette maladie. Le point avec Irène Mboma.
Selon les médecins coordonnateurs provinciaux du programme élargi de vaccination PEV du Kwango, cette campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 16 mai dans la province du Kwango a une durée de 7 jours. Au total, 277 sites sont organisés à travers les 14 zones de santé que compte cette province. Et la population attendue pour être vaccinée au cours de cette première phase de campagne est de 257 661 qui représente les 20% des personnes âgées de 18 ans et plus concernés par cette vaccination. Docteur Léon Makambu Salabiaku qui le dit, appelle la population concernée à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus.
C'est une meilleure occasion pour que nous puissions être vaccinés tout en respectant aussi les mesures barrières. La vaccination, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est un moyen efficace pour se protéger contre la maladie coronavirus. Et que tous ceux qui ont des comorbidités, c'est vraiment une opportunité pour eux. Nous demandons à tout le monde d'adhérer afin que nous puissions vacciner le maximum de la population de 18 ans et plus.
Notez que trois types de vaccins anti-COVID-19 sont utilisés pour cette campagne, à savoir les Pfizer, les Sinovac et les Johnson & Johnson. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Burkina Faso. Les opérations pour tenter de retrouver 8 mineurs portés disparus sous terre dans une mine de zinc du pays depuis un mois se poursuivaient ce mardi, mais sans grand espoir de les retrouver vivants. Ces 8 mineurs, dont 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien, ont été pris au piège le 16 avril dernier au fond de la mine de Perkoa, exploitée par la compagnie canadienne Trevally Mining, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Ils ont été ensevelis après des pluies diluviennes qui ont inondé les galeries souterraines où ils travaillaient à 700 mètres sous terre. Depuis, aucun contact n'a pu être établi avec eux, mais les sauveteurs espèrent encore qu'ils ont pu s'abriter dans une chambre de refuge située à 580 mètres de profondeur où des kits de survie comprenant de l'eau, de la nourriture et des médicaments sont habituellement stockés. Le président américain Joe Biden a décidé de redéployer des militaires en Somalie afin de combattre le groupe extrémiste d'Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda, près de 18 mois après le retrait des 750 militaires américains du pays. Ils seront environ 500 à être envoyés sur place.
L'invité.
Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée décrétée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Elle a pour but de donner l'information sur la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Pour en parler, nous recevons le docteur Ananias Djouamungu, résident médecine interne à l'hôpital Île Africa de Goma. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Docteur Ananias Djouamungu, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'est l'hypertension artérielle ?
Alors, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, si on peut comprendre ça comme ça, mais c'est beaucoup plus un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Ça vous expose à développer maintenant une maladie permanente. Et quand on te dit que c'est facteur de risque, parce qu'on peut l'éviter, on peut le prévenir et on peut aussi le stabiliser.
Et quelles sont les causes de l'hypertension artérielle?
On peut d'abord essayer un peu de les classifier. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension dite essentielle, où il n'y a pas vraiment des causes évidentes. Et cela, c'est dans 90%. Où vous le trouvez seulement, vous êtes hypertendu. Mais quand on essaie un peu de chercher les causes, on voit seulement des facteurs qui vous ont prédisposé à développer cette hypertension artérielle. Cela, c'est dans 90-95%. Ce n'est que dans 5 ou 10% qu'on peut identifier exactement les causes. Ça peut être soit rénale, ça peut être soit endocrinienne, ça peut être soit les médicaments, ça peut être beaucoup de choses. Et pour les hypertensions secondaires, on peut soigner la cause et on a beaucoup plus de chances de guérir définitivement de l'hypertension artérielle. Mais pour l'hypertension artérielle qui est essentielle, d'ailleurs qu'on appelle un tueur silencieux, c'est chronique et on doit vivre avec.
Quels sont les signes, quand vous dites c'est un tueur silencieux, mais il y a des signes qui vous alertent que vous l'avez?
Les signes ne sont pas spécifiques. Le malade peut présenter juste les signes généraux. Ça peut soit se laisser faller, se prendre des maux de tête, il est un peu essoufflé. Il va à l'hôpital et au décours d'un examen, le problème de la pression artérielle ou de la tension artérielle, le médecin va remarquer que quand même les chiffres sont un peu élevés et il peut essayer un peu de corréler la symptomatologie aux chiffres tensionnels. Mais tout comme aussi, les malades peuvent venir à l'hôpital au décours même des complications. C'est-à-dire il vient dans un tableau d'AVC, il peut venir dans un tableau de rétinopathie, c'est-à-dire il n'arrive pas à voir très bien. Et c'est quand on fait les prélèvements de la pression artérielle qu'on remarque que les chiffres sont élevés. Et on voit effectivement une corrélation qui est ici. Par exemple, cet AVC ici, c'est parce qu'effectivement ces chiffres sont élevés. Pour commencer, on peut faire aussi la découverte de cette hypertension artérielle dans le cadre des bilans des routines. Donc il vient dans le cadre d'un bilan d'embauche. Et c'est là qu'on remarque justement qu'il est hypertendu.
Une personne qui découvre qu'il a l'hypertension artérielle, comment peut-elle vivre avec?
C'est une maladie chronique. Je dis bien sauf pour les hypertensions secondaires où on peut arriver à faire un traitement étiologique, c'est-à-dire où on identifie la cause et on soigne la cause et on a beaucoup plus de chances de guérir de l'hypertension. Mais pour les restes, dans 90% des cas, c'est chronique. Et les malades doivent suivre un traitement qui commence bien sûr par la modification de l'hygiène de vie. Il doit faire sport, il doit consommer beaucoup plus de fruits, de légumes, il doit diminuer le sel. Mais lorsque les médecins décident de lui soumettre à un traitement en fonction de telle ou telle autre évidence thérapeutique, il doit suivre ce traitement à vie. Il doit faire des contrôles réguliers et suivre les recommandations de son médecin. Mais il ne doit en aucun cas arrêter le traitement.
Et pour les personnes qui n'ont pas encore cette hypertension artérielle, comment la prévenir?
Il y a des facteurs modifiables et non modifiables. Alors, pour les non modifiables, nous avons par exemple la génétique. Si vous venez d'une famille des hypertendus, tu ne vas rien faire, c'est-à-dire que vous êtes exposé. Et on sait que les hommes sont beaucoup plus exposés à développer l'hypertension que les femmes, bien sûr, à un certain âge. Donc, tu ne peux rien y faire. Donc ça, ce sont des facteurs non modifiables. Mais par exemple, les facteurs modifiables, nous avons par exemple le stress. On peut jouer sur le stress, bien sûr. Vivre sans stress, c'est presque utopique dans notre vie actuelle, mais on peut essayer de vivre tout en essayant de contrôler. La dyslipidémie, la malbouffe en fait. On doit bien manger, on doit contrôler tout ce qu'on mange. Il y a les tabacs, il y a les médicaments qu'on prend, par exemple pour les femmes, les estrogènes, les pilules contraceptives. Donc il y a les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables par rapport à ça.
Quel conseil simple vous avez à donner à toute la population?
Alors les conseils simples, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est ne pas non plus une intoxication genre KO, aller toujours à l'hôpital, vous faire dépister. C'est là, c'est à partir de 18 ans. Donc, on a tendance à croire que non, je vais commencer à prélever ma tension artérielle à partir des 40 ou des 50. Mais on peut faire aussi une hypertension secondaire chez les jeunes, ça peut arriver. Donc, à partir des 18 ans, ayez toujours l'habitude de vous faire dépister. Et une fois le diagnostic est posé, il faut vous soumettre aux recommandations de votre médecin.
Docteur Ananias Djouamungu, je rappelle que vous êtes résident en médecine interne à l'hôpital de l'Africa de Goma. Merci.
Je vous en prie.
Notre invité répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Alain Goya, la mise en onde et Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.